frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution.
Bonjour à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. Le gouvernement congolais a adopté en fin d'année 2019 le projet de décret fixant les avantages et facilités accordés aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en RTC. Ce projet avait été présenté par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou. Et selon le ministre de tutelle, les avantages accordés par ces décrets vont stimuler beaucoup d'opérateurs économiques à investir dans les zones rurales. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081-890-4969 pour intervenir en direct. Mais vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs pour commenter ces sujets. La mise en œuvre de ce programme est assurée par Dieudonné Nyangasa, Nico Kalambay assure la réalisation et Pierrot et la Mengi, c'est pour mon réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mengi.
Rappelons que le ministre Julien Paloukou avait annoncé son projet de créer 100 millions de millionnaires congolais, 100 millionnaires congolais d'ici 5 ans. Et l'investissement dans les domaines industriels est une devoir pour y arriver. Et nous sommes avec lui en direct dans cette émission. Monsieur Julien Paloukou, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi que j'ai manqué depuis beaucoup de temps et particulièrement c'est de Béni à qui j'adresse toute ma compassion.
Merci beaucoup. Vous êtes ministre de l'Industrie. Alors, c'est quoi d'abord d'une manière brève pour que les auditeurs comprennent ce qu'on appelle une zone économique spéciale?
Une zone économique spéciale, c'est en fait un espace qui est choisi par un gouvernement pour y attirer des investissements, qu'il s'agisse des investissements privés ou étrangers, avec des facilités accordées à ces investisseurs. Je vous donne un exemple. Le gouvernement peut dire, j'ai créé un espace de 200 hectares, 300 hectares, dans lequel vont fonctionner des entreprises qui vont commencer à y produire les unes dans le domaine de la transformation, dans le domaine de la construction, dans le domaine de fabrication des matériaux, des emballages. Ces entreprises-là ne sont soumises à aucun paiement de taxes. Et même lorsqu'il s'agit de matières qu'elles importent, ces matières-là ne payent pas de douane à l'importation. Lorsque ces entreprises doivent exporter les matières produites à l'intérieur des zones économiques spéciales, eh bien, elles sont exonérées à l'exportation. Donc, c'est ces espaces-là à l'intérieur desquels s'organise ce genre d'activité qu'on appelle zone économique spéciale. Donc, les termes diffèrent selon en fait, les pays, il y a par exemple aux États-Unis, on les appelle des zones d'entreprise, vers l'Afrique de l'Ouest, au Ghana, au Cameroun, on les appelle des zones franches industrielles, en Russie, on les appelle des zones économiques libres. Donc, ça dépend d'un pays à l'autre, mais le fondamental de la création d'une zone, qu'il s'agisse des zones franches, des zones technologiques, des zones économiques spéciales, eh bien, l'objectif, c'est de promouvoir les investissements privés étrangers ou nationaux en attirant effectivement des capitaux au moyen de certaines incitations, qu'elles soient économiques, juridiques ou administratives. Mmh. Voilà, de manière brève, ce que je peux donner comme définition d'une zone économique spéciale ou une zone franche, c'est cela.
Mais on sait que la loi qui a créé, qui a institué ces zones économiques spéciales a déjà existé avant que vous soyez, vous preniez fonction au ministère de l'Industrie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été déjà fait dans cet aspect, bien sûr, de l'économie?
Oui, en fait, il y a sur le plan juridique un certain nombre d'avancées auxquelles la République a accédé, notamment, comme vous l'avez dit, c'est la loi qui fixe le régime des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, qui date de 2014. Après cette loi, il a été mis en place, effectivement, l'Agence des zones économiques spéciales, qui est un établissement public, ayant la mission d'administrer, de réguler, de contrôler et de suivre la mise en place de toutes les zones économiques spéciales qui auront lieu dans le pays. Parce qu'il faut que les auditeurs sachent que l'ambition du gouvernement n'est pas de mettre en place une seule zone économique. Par exemple, la Chine a plus de 1000 zones économiques spéciales qu'elle a pu organiser à l'intérieur du territoire chinois. Donc nous aussi, nous avons la même ambition d'en créer plusieurs. Et donc pour devoir suivre leurs activités, réguler leurs problèmes, contrôler ce qu'elles sont en train de faire, eh bien le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle une agence des zones économiques spéciales dont la mission est celle que je viens de décrire tout à l'heure. Et c'est cette agence-là qu'on appelle AZES, c'est-à-dire Agence des zones économiques spéciales, qui octroie les statuts des zones économiques spéciales à des sites qui sont effectivement sélectionnés, qui signent d'ailleurs les contrats d'aménagement, comme c'est le cas qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours. L'Agence des zones économiques spéciales vient de signer le premier contrat d'aménagement avec la société Strategos, qui a gagné effectivement le marché sur la zone économique spéciale de Maluku, dont le processus de sélection avait commencé en 2017 par la facilitation de la Banque mondiale. Donc je crois que au niveau de la RDC, nous sommes en train d'avancer et nous, lorsque nous sommes arrivés, nous avons subdivisé la République en 6 espaces que nous avons appelés zones industrielles, l'espace Kinshasa, l'espace Kasai, l'espace Katanga, l'espace Kivu, l'espace ex-province orientale et l'espace Équateur. Et donc, au niveau du ministère de l'Industrie, aujourd'hui, nous sommes en mesure de recevoir des investisseurs aussi bien étrangers que nationaux et de leur donner la cartographie de chaque espace industriel pour dire, vous voulez investir dans l'agro-industrie, vous voulez investir dans les matériaux, vous voulez investir dans la cimenterie, vous voulez investir dans la raffinerie, vous voulez investir dans tel, au moins nous avons cette cartographie du pays que nous partageons avec les investisseurs et à chacun maintenant de devoir opérer les choix sur ce qui rime avec ces activités.
Mais alors, vous avez parlé de Maluku. Est-ce qu'il y a-t-il déjà des sollicitations par rapport à d'autres zones, que ce soit pour le Kasaï, le Kivu, ou soit à part ce qui s'est fait pour Kinshasa et à Maluku?
Oui, si pour Maluku nous avons déjà signé le contrat d'aménagement de la zone, et donc pour dire que déjà la zone de Maluku est à chantier, elle est déjà en œuvre, nous venons de signer, lorsque nous étions en Égypte, des protocoles avec 3-4 entreprises égyptiennes, notamment El Sewedi, Semcrit, Incom. Les gens peuvent vérifier cela sur Internet, ils trouveront que ce sont des grandes entreprises qui font partie des 10 grandes fortunes égyptiennes. Nous avons signé donc pour le Congo central, nous avons signé pour l'Oualaba, nous avons signé pour les Haut-Katanga et nous attendons d'autres partenaires qui arrivent pour signer en faveur de l'ex-Kivu, en faveur du centre, notamment dans les Kasaï. Parce qu'en fait, le préalable qu'il faut lorsque on doit accorder le statut de zone spéciale à un espace, lorsqu'on doit l'accorder à des investisseurs, le préalable, c'est aussi l'énergie. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, dans tout ce que nous faisons, nous sommes comme des jumeaux avec notre collègue du ministère de l'Énergie, parce que en amont, nous devons nous rassurer que la zone qui est créée va être dotée d'une capacité suffisante en énergie. Et en Égypte, nous avons eu des répondants où des entreprises sont à même de produire près de 500 MW en 3 mois par un système photovoltaïque, c'est-à-dire système solaire. Ça peut étonner beaucoup d'auditeurs qui peuvent dire, mais comment on peut construire une centrale de panneaux solaires en 3 mois et produire 500 MW? Nous avons nous-mêmes été voir ce qui se passe en Égypte, et donc il est possible, j'ai toujours dit, quand je suis en interaction avec les gens, pour commencer, il faut commencer, et donc nous apprenons aussi à commencer maintenant, et nous allons voir d'ici fin 2020, 2021, 2022, 2023, quelle sera la République démocratique du Congo. Parce qu'en fait, quand vous faites l'analyse de la situation industrielle en 1960, nous étions à plus de 10 000 entreprises industrielles. Mais aujourd'hui, nous ne restons plus qu'avec 500 entreprises seulement. Donc si nous attirons les investisseurs dans ces différentes zones économiques spéciales qui seront rendues disponibles à travers les pays, l'ambition c'est de dépasser même les 10 000 entreprises industrielles d'ici 2030, pour que si on atteint 20 000, 30 000, 40 000 entreprises industrielles et que chacune d'elles peut engager seulement 100 personnes, eh bien si on a 10 000 entreprises industrielles par 100 personnes, ça fait déjà 1 million d'emplois. Donc voilà les projections qu'on est en train de faire au niveau du ministère de l'Industrie, et nous pensons que cette politique de mise en place des zones économiques spéciales peut être l'un des remèdes à tous les maux qui rongent notre pays.
On va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs qui sont très très intéressés par le débat. On le voit nombreux qui commentent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs et surtout qui se posent des questions sur le mode opératoire de tout ça et surtout les résultats en définitive. Augustin, vous êtes à Boendé. Bonjour Augustin.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, alors Pierrot, j'ai suivi avec une attention soutenue les propos qui s'avaient vraiment élogés de son excellence, monsieur le ministre. Mais je commenterai un peu le sujet tout en disant ceci. En le suivant, nous comprenons que le ministère, ayant le mis dans ses attributions, est un grand ministère qui doit vraiment jouer un rôle très important dans ce pays. La création des zones économiques spéciales, comme le ministre l'a trop bien souligné, est l'une des initiatives qui va quand même amener des conditions positives dans les cadres socio-économiques, socio-professionnels, dans toute l'étendue du territoire national. Et nous osons croire qu'avec la vision du ministre, les projets, la politique nationale du ministre envisage que d'ici 2030, les entreprises puissent, n'est-ce pas, être créées dans toute l'étendue du territoire national. Et moi je crois que le ministre ne peut pas s'hasarder à ce genre de projet, sans pour autant passer à une étude de faisabilité. Et l'étude de faisabilité ici, c'est par rapport aux situations que nous remarquons dans certaines zones que nous vivons. Et je crois qu'il a tenu aussi compte, faire allusion aussi à l'énergie solaire. Bien sûr. Le ministre de l'Industrie peut collaborer en étroite collaboration avec le ministre de l'Énergie. Mais nous devons croire que dans d'autres zones, ce projet aura des effets positifs que si on va aussi tenir compte de plusieurs situations. Nous avons même dit, vous savez aujourd'hui, plusieurs situations pour attirer même l'attention des opérateurs économiques dans une entité quelconque. Ça va tenir compte aussi, nous avons cité, les conditions socio-sécuritaires. Le ministre doit aussi faire allusion à cette condition. Les conditions aussi sur l'infrastructure, ça va poser aussi problème. Parce que ici, dans d'autres provinces, oui, si nous prenons, comme le ministre l'a très bien souligné, l'espace, vous allez vous rendre compte, là-bas, sur le plan infrastructure, là quand même, c'est d'une manière positive. Mais si vous prenez le cas dans certaines provinces, vous allez vous rendre compte que ça va tenir, on doit passer à la création d'infrastructures, on doit construire tout ça, et on devrait aussi tenir compte même de, comment nous disons aujourd'hui, l'énergie solaire dans certains milieux. Donc l'initiative est une bonne initiative qui va attirer l'attention des opérateurs économiques dans certains milieux ruraux, mais ça va tenir vraiment, ça va demander des grands montants colossaux pour que les projets puissent aller en bonne et due forme. Et pour que le projet puisse aussi aller, il faut que l'appui aussi vraiment de la présidence, selon à mon avis, et même de la primature, pour que le projet puisse vraiment avoir...
Merci beaucoup, Augustin. Je relève deux choses. Vous parlez d'abord de l'énergie. Vous avez ajouté la question de la sécurité, mais aussi des infrastructures. Vous estimez qu'il y a des zones où il y a un problème sérieux d'infrastructures. Faudra-t-il d'abord investir l'argent dans les infrastructures pour arriver à investir après? Ça va susciter des gros investissements. Et votre souci, c'est de voir la présidence de la République et le Premier ministre, n'est-ce pas? On peut dire le président de la République et le Premier ministre accompagné ces projets initiés par le ministre. Merci beaucoup. Kilikumbi, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Bonjour Pierre Lamenji, bonjour Monsieur le ministre de l'Industrie qui est l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez, Monsieur Pierre. D'entrée de jeu, je tiens à saluer cette initiative du ministre de l'Industrie qui d'emblée reste une bonne initiative car elle est en train de donner l'impression du souci qui domine le ministre de l'Industrie de faire croître le secteur industriel, un secteur combien important pour le développement d'un pays en voie de développement comme le nôtre. Cependant, monsieur Pierrot, j'ai une crainte que cette initiative, combien louable du ministre, ne puisse pas aider à faire développer les pays. Pourquoi je le dis ou pourquoi cette crainte? Parce que oui, on est en train de faire appel aux investisseurs, mais je suis en train de voir que ces investisseurs-là, qui dans la plupart des cas, c'est du capitalisme qui les domine, donc un esprit de profit à outrance. Je suis en train de voir que nombreux seront en train de s'intéresser dans ce secteur qui leur seront rentables rapidement parce qu'ils en ont besoin et de la rentabilité et les questions ayant trait au développement du pays ou les secteurs ayant trait au développement du pays seront laissés à la merci du gouvernement, le gouvernement qui malheureusement lui aussi ne semble pas ne pas s'impliquer dans l'investissement, il laisse cela au privé, alors qu'aujourd'hui nous le savons que parmi les sources du revenu de l'État, il n'y a pas que seulement les impôts, il n'y a pas que seulement l'État, parce que oui, le souci est de faire accroître les impôts et l'État à partir de ces investisseurs qui viendront. L'État peut aussi investir dans les domaines économiques et ça se fait sous d'autres pieds. Alors, comme je me dis, pourquoi notre gouvernement, pourquoi notre pays ne peut-il pas aussi investir? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accroître les recettes fiscales et non fiscales, mais aussi se procurer les recettes. Et l'État, quand il va investir dans les domaines qui peuvent faire développer les pays, contrairement aux projets les profits qui les intéressent.
Voilà. Ce que vous dites, c'est intéressant, Kilikumbi. Vous avez peur, c'est ça? Votre crainte, c'est de voir les investisseurs choisir seulement des secteurs qui leur sont rentables, hein, au détriment du développement. On va voir avec notre invité, avec le ministre, s'il y a des secteurs prioritaires qui sont concernés par les zones économiques spéciales. Votre souci, c'est de voir les investisseurs s'intéressaient au développement plutôt que venir seulement investir, récupérer des capitaux et partir. Merci beaucoup, Kilikumbi. Trésor Junior, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot et la Menji. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi.
On vous écoute.
Je fais mienne les propositions ou les suggestions faites par ceux qui sont intervenus avant moi. J'aimerais vous dire, la création des zones économiques spéciales, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, avec ça, ça pourra permettre l'élimination du taux de chômage dans certaines provinces. Donc, c'est quelque chose que nous devons saluer. Mais pour que cela tienne, ou pour que ça puisse correspondre à la philosophie du ministre, il va falloir que les gouvernements congolais puissent, des moyens importants, puissent permettre le soutien total de ces projets-là. Alors, vous verrez que les investisseurs pourront, parmi eux, il y en a qui vont choisir seulement certaines zones qui seront pour eux bonnes. Pour des zones là où il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas de route, vous verrez qu'ils ne pourront pas aller élire domicile là-bas. Et pour cela, je demande à l'État congolais, surtout au gouvernement, de pouvoir déployer des montants, des sommes là qu'il faut pour que ces projets puissent tenir. En tout cas, c'est un bon projet pour nous, la République démocratique du Congo. Pourquoi pas savoir permettre le développement de ces beaux pays, en tout cas. Ce sont des projets que nous devons soutenir.
Merci. Trésor Junior, vous l'avez dit, hein, pour éviter que les investisseurs ne choisissent des zones où il y a la facilité d'installation, cela veut dire l'électricité ou l'énergie, les infrastructures, vous souhaitez que le gouvernement alloue des moyens, facilite aux investisseurs, n'est-ce pas, en créant les infrastructures nécessaires qui peuvent accompagner l'installation dans ces zones économiques spéciales. On va écouter Olivier qui est à Kikuit et revenir à notre invité pour réagir. Olivier, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, et je dois vous dire que le projet est vraiment flatteur. Mais là, c'est sur papier. Et ça signifie que la théorie qui est présentée ici, c'est une théorie qui peut nous aider tous. Mais la réalité de ce pays, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et j'ai l'impression que nous ne cesserons jamais de placer la charrue devant les bœufs. C'est bien, les zones économiques spéciales, c'est très très bien. Mais si nous prenons Kinshasa seul, et on va à Maluku, là je peux comprendre qu'on se dise que là, l'énergie, on en aura. Mais dans quelle autre province, on aura de l'énergie suffisante? L'invité nous a parlé de ses visites en Égypte, avec l'énergie solaire. Mais tout ça, c'est très, très bien. Mais Pierrot, moi, je ne suis pas sceptique. Mais je crois que nous devons aller dans la logique des choses. L'économie, c'est des mathématiques. Donc, on ne peut pas dire on va développer alors qu'on n'a pas encore les éléments qui doivent précéder. Je prends un exemple. Vous êtes à Kisangani et vous dites nous allons développer, nous allons créer une industrie de transformation des arachides. Les arachides sont à Dungu. Vous dépassez Gupta, vous allez à Dungu sur la route de Bondo. Pierrot, pour quitter Gupta, arriver à Bondo, il faut 3 semaines dans un grand véhicule parce que Gupta n'existe presque pas. Alors, comment cet industriel, malgré les facilités qu'on va lui accorder, comment il va faire pour résorber ses dépenses? Il peut le faire, mais le prix de revient, quand sa marchandise va arriver à Kisangani, le prix de revient sera tellement élevé que la population qu'on veut sauver ne va pas se retrouver parce que le prix de vente des marchandises, des produits finis sera exorbitant. Donc, moi je voudrais que l'invité puisse travailler à fond d'abord le projet, et ce n'est pas lui seul, c'est un problème du gouvernement tout entier, et tous les départements, tous les ministères sont impliqués. Mes prédécesseurs ont parlé de sécurité, mais moi j'ajoute une autre chose.
Dommage, on a perdu. Olivier estimait qu'il faut d'abord commencer par mettre en place les conditions nécessaires. Si je retiens 2 éléments qu'il a évoqués, installer d'abord l'énergie et puis construire les infrastructures. Avec l'exemple qu'il donnait de Kisangani, par exemple, il faut d'abord commencer par avoir l'énergie, construire les infrastructures, maintenant inviter les opérateurs économiques à se rendre dans les zones économiques spéciales pour éviter que cela ne puisse pas marcher. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Étienne, vous gardez la ligne, nous allons revenir à vous.
L'émission Roundup a un nouvel horaire à partir de ce vendredi. Retrouvez le boucan musical autorisé de la fréquence de la paix tous les vendredis de 21h à 23h. Et en rediffusion tous les samedis de 15h10 à 17h, heure de Kinshasa avec Nico Kalambay.
Voilà, on revient à vous, Monsieur Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Vous avez suivi les quelques inquiétudes aussi présentées par les auditeurs au-delà des encouragements. Quelle est votre réaction?
Oui, je voudrais vraiment de tout cœur remercier M. Augustin de Boende, M. Kumbi Kili, je crois Kili Kumbi de Kindu, trésor junior de Kinshasa, et Olivier de Kikwit qui globalement apprécie l'initiative. Je voudrais, avant de répondre aux préoccupations des uns et des autres, dire que tous les pays du monde ont été comme nous au départ, sans infrastructure, sans énergie, sans chemin de fer, sans eau, sans ceci. Mais ils ont commencé quelque part, ils ont osé et ils se trouvent à l'état dans lequel ils sont actuellement. Je vais citer la Corée du Sud, j'ai eu le temps de visiter Séoul, j'ai eu le temps de visiter Busan, je vais citer la Thaïlande, je vais citer le Taïwan, je vais citer la Chine, je vais citer tous. Et plus près de nous, l'Afrique était inférieure à la RDC aux années 60, l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, elle nous dépasse de très loin. Donc, le fait d'avoir des défis à relever ne peut pas nous plonger dans la fatalité et finalement dire on ne peut plus rien. On doit commencer, et si c'est aujourd'hui qu'on doit le faire, il faut qu'on le fasse. Mais je ne pense pas que c'est nous qui commençons, parce que nous sommes en train de nous inscrire dans une série d'activités qui avaient déjà eu lieu, que nous poursuivons, pour lesquelles nous amenons un certain nombre de technicités pour nous amener à aller de l'avant. Alors, revenons maintenant principalement sur les préoccupations des uns et des autres. Monsieur Augustin a évoqué une question fondamentale, les études de faisabilité. Effectivement, ces études de faisabilité constituent un préalable dans tous les pays, dans tous les dossiers. Si vous voulez lever des fonds au niveau international, il faut disposer des études. Voilà pourquoi, au niveau de notre ministère, nous avons convié les fonds de promotion de l'industrie, les FPI, à ne pas se limiter seulement au financement des projets, mais également à financer les études. Parce que lorsque nous allons disposer des études, eh bien nous pouvons vendre nos projets à n'importe quelle banque. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une capacité de 100 000 mégawatts et qu'il y a une étude qui le prouve, on peut facilement lever des fonds pour devoir nous produire les 100 000 mégawatts parce que la banque qui vous accorde les fonds sait très bien qu'à la base de l'étude, il y a une rentabilité qui est déjà prouvée. Donc je soutiens l'idée et nous y sommes déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai dit en introduction qu'au niveau du ministère de l'Industrie, nous sommes capables, dans les 6 espaces que nous avons décrits tout à l'heure, nous sommes capables de dire à tout investisseur qui veut arriver que vous voulez aller à Boende, voici les spécificités de Boende. Vous voulez aller au Kasaï oriental, il y a une possibilité d'installer une cimenterie à Katanda, à 56 km de Mbujima, il y a du calcaire là-bas. Vous voulez aller, je ne sais pas, à la Tchopo, il y a une cimenterie à 80 km qu'on peut installer parce qu'il y a du calcaire. Donc au niveau du ministère, nous sommes à même de devoir faire cette cartographie et c'est cette invitation qui a été faite à tous les membres du gouvernement, chacun à ce qui le concerne, pour que nous puissions avoir la valeur de la République démocratique du Congo. Demain, si nous voulons lever les fonds, il faut qu'on sache que la valeur de la République démocratique du Congo, par exemple, nous coûte 100 000 milliards de dollars. Alors là, nous n'aurons pas de difficulté de lever des fonds de 10 milliards, de 20 milliards, de 30 milliards. C'est un travail effectivement très très difficile, mais je pense que nous sommes en train d'oser, on est en train de commencer et les années qui suivent vont devoir être révélatrices de la bonne volonté de ce gouvernement à aller de l'avant. J'ai aussi suivi la crainte de M. Kili Kumbi qui dit ben, « est-ce que ces gens ne viendront pas, comme ils sont capitalistes, choisir les domaines qui les intéressent ?» Mais là, non. Voilà pourquoi le gouvernement a installé ce qu'on appelle l'Agence des zones économiques spéciales. Cette agence a pour rôle, et je l'ai évoqué au début, de devoir réguler, de devoir contrôler, de devoir suivre les activités ayant trait à l'aménagement de toutes ces zones et aux entreprises qui s'installent dans ces zones pour que ces zones-là puissent s'aligner sur les priorités du gouvernement. Nous n'allons pas nous aligner sur les priorités des entreprises qui viennent. Ce sont ces entreprises qui vont s'aligner sur les priorités qui sont définies par le gouvernement. Le Premier ministre a défendu à l'Assemblée nationale notre programme qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Ce sont les piliers contenus dans ce programme que nous partageons avec les investisseurs et qui sont pris en charge selon la spécificité de chacune des entreprises. Monsieur Trésor est revenu sur ce que j'avais déjà évoqué, l'électricité. Effectivement, dans la démarche que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi vous voyez quand le président de la République se déplace, il a dans sa suite 5, 6 ou 7 ministres pour que nous puissions mettre en place une démarche intégrée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si nous voulons installer une zone économique spéciale à Bouta et qu'il n'y ait pas de route, il faut que nous ayons un investisseur qui, lui, va se charger de la route. S'il n'y a pas d'électricité, il faut que nous ayons un investisseur qui, lui, va se charger de l'électricité. Si maintenant nous cherchons un aménageur de la zone, c'est un autre investisseur. Et donc, dans cet espace du Bazouélé, on va y attirer 4, 5, 6, 7 investisseurs, chacun selon le problème qui se pose dans cet espace-là. Et au bout d'une année, de 2 ans, chacun aura fait sa route, l'autre aura fait la centrale hydroélectrique, l'autre aura construit une station d'eau potable et l'autre aura aménagé la zone économique spéciale. Et le premier bénéficiaire de tout ce qui sera déjà monté comme projet, ce sont les entreprises qui sont dans la zone économique spéciale, mais également les populations environnantes. Donc c'est une démarche intégrée. C'est un peu fou lorsqu'on démontre ce genre d'exercice. Les gens peuvent croire que c'est des choses qu'on ne va pas atteindre, mais moi je crois que en tant que planificateur de développement, j'ai confiance qu'avec l'appui que nous avons et du président de la République et du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement et aujourd'hui l'appui que nous avons de la population au regard de l'échantillon que je vais suivre tout à l'heure, je crois que nous pouvons y arriver. Il faut que les Congolais commencent à croire qu'il est possible de transformer ce pays, qu'il est possible de, la changer, de le changer, parce que avec la volonté, rien n'est impossible et tous les autres pays sont passés par là.
Voilà. Mais il y a sur la page Facebook un auditeur qui est revenu sur la transparence dans la passation des marchés hein, pour ces entreprises qui vont aménager les zones économiques spéciales. Je crois bien sûr quand vous avez publié le premier marché qui a été octroyé à cette entreprise citée tout à l'heure, vous avez suivi vous-même. Bon, beaucoup de gens se sont posé des questions. Je l'ai vu d'ailleurs sur notre page Facebook où les gens estiment que est-ce qu'il y a eu transparence dans la passation de marché parce que l'entreprise qui a gagné le marché appartiendrait entre guillemets à l'ambassadeur qui est plus proche du chef de l'État. Mais comment vous pouvez essayer de donner l'explication par rapport à ça?
Oui, j'ai aussi lu effectivement par le temps passé certains commentaires sur la question, mais je crois qu'il faut porter l'information à la connaissance de l'opinion congolaise. Le processus d'appel d'offres a commencé en 2017. Félix Tshisekedi était à l'opposition, il n'était pas président. Eh bien, la Banque mondiale a conduit le processus d'appel d'offres, de recrutement. Il y avait 7 entreprises qui étaient en compétition et c'est l'entreprise Strategos qui a gagné ce marché. Donc, c'est un processus qui a été conduit par la Banque mondiale. Ça n'a rien à voir avec le président de la République, ni avec Julien Paluku, ni avec l'ancien président, ni avec le premier ministre. Et l'entreprise a été sélectionnée pour les prouesses qu'elle est en train de faire en Colombie. C'est lorsque la Banque mondiale a examiné ce que l'entreprise est en train de réaliser dans le cadre d'aménagement des zones économiques spéciales en Colombie que l'entreprise a été recrutée et a eu le privilège d'être sélectionnée. Donc je crois qu'il faut donner plutôt l'information la vraie aux personnes pour que on ne puisse pas dénaturer le processus qu'on est en train de faire. Maintenant, quelqu'un peut appartenir à X ou Y, L, bon, nous ne regardons pas cela, nous regardons l'entreprise qui a gagné le marché et non pas les personnes qui les composent.
Merci beaucoup. Alors, on va écouter. Ok, on va écouter Étienne qui est à Guémena et Bathier ici à Kinshasa. Étienne, bonjour.
Bonjour à Dokati, bonjour à monsieur le ministre Julien Kaunga qui est au plateau.
On vous écoute, oui.
Oui, merci monsieur le journaliste. Comme le prédécesseur, je pense que le projet est salutaire pour la République démocratique du Congo. Et je pense que notre pays étant un pays post-conflit, et d'ailleurs tous les pays du monde ne peuvent se développer seuls sans le concours de partenaires et des investisseurs. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comme les gens l'ont dit, le projet, oui, c'est dans le souci de désenclaver notre pays. Mais la transparence, les mesures d'accompagnement mises sur pied par ce gouvernement pour que ce projet puisse réussir. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup d'initiatives pareilles, mais qui n'ont pas abouti. Et peut-être qui ont servi qu'à de petites couches de personnes, mais aussi, nous devons savoir quelles sont les particularités de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, notre pays a 26 provinces. Il faudrait qu'on puisse savoir qu'on ait l'équilibre dans la passation de ces marchés. Qu'on puisse pas seulement privilégier certaines provinces, certains centres, mais néanmoins voir l'ensemble du territoire national pour que partout le pays puisse être désenclavé. Chaque province a sa particularité, chaque province a ses potentialités. Alors moi, je pense que s'il faut attendre, s'il faut seulement que les investisseurs, que les partenaires donnent leur point de vue, ils choisiront, comme a dit un prédécesseur là, les hommes faciles, accessibles, mais néanmoins, qu'il y ait des mesures d'accompagnement et que le gouvernement canalise, oriente.
Voilà. Et ça c'est important. D'ailleurs, notre invité pourra nous expliquer en quoi a consisté le décret hein, qui a été adopté au Conseil ministre, qu'il a présenté, qui doit accompagner. Vous l'avez dit, il faut des mesures d'accompagnement pour les investisseurs, tout en tenant compte de la particularité et des potentialités de chaque zone économique spéciale, disons, de chaque province. Merci beaucoup, Étienne Bathier. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi, je dois d'abord saluer tous nos compatriotes du Congo profond à Walikale qui nous suit et son excellence Monsieur Kaunga qui est dans votre studio. Monsieur le journaliste, je voulais juste dire à notre invité que parfois nous la population on ne parvient plus à croire à tous les projets qui nous amènent, parce que quelque part nous remarquons que c'est comme si tous ces projets-là, ce n'est pas bénéfique pour la population. Moi, je voulais juste illustrer, même pour les cas, lorsqu'il était gouverneur de la province du Nord-Kivu, il nous a plus sensibilisé pour l'entreprise Alpha Mine. C'est une mining qui opère au niveau du territoire de Walikale. L'ex-gouverneur nous avait toujours dit que non, lorsque l'entreprise Alpha Mine va être là, je pense qu'il va donner plus de solutions aux problèmes de la population. Donc, on va créer l'emploi à partir de ces investisseurs. On va prendre les entreprises qui vont engager les jeunes gens, ils vont réhabiliter les routes des sites agricoles. Moi, je vous confirme, messieurs les journalistes, aujourd'hui, c'est le chaos dans les territoires de Walikale. Vous pouvez vous rendre compte que maintenant, Goma-Walikale, c'est 280 km, mais la route, elle est pratiquement impraticable. Maintenant, même les pauvres populations qui devaient utiliser cette route-là, l'entreprise minière, il est venu, l'entreprise a détruit complètement la route. Il a maintenant pris, pour ramener ses matériels, il prend des matériels qui passent de Goma, ici, il passe par Kisangani jusqu'à Walikale. Ils font plus de 2000 kilomètres. Vous vous imaginez un peu. Alors, nous, on se demande vraiment, est-ce que les entreprises que le gouvernement nous amène, est-ce qu'ils nous amènent vraiment les activités de soulagement? On ne croit pas ça. Moi, je pense qu'il faut que l'ex-gouverneur, je pense que le ministre doit chercher à regarder d'abord ce qu'il a. Il avait déjà promis aussi à la population son passé. C'est ce qui va lui projeter maintenant avec la réussite
Et là, cela veut dire, oui.
Quelque part, ne parvient plus à croire à leur projet. Moi, nous sommes vraiment très déçus.
Merci, Bathier.
Avec le projet qui nous amène, qui n'est pas même à la...
Alors, ça dit qu'ici, vous faites une comparaison, ce qui est arrivé à Walikale avec Alpha Mine du temps où M. Julien Paluku était gouverneur des provinces du Nord Kivu, et vous estimez que partant de cela, vous ne croyez pas tellement que les initiatives actuelles au niveau du gouvernement puissent porter les résultats. Le souci de toute la population congolaise, c'est de voir les résultats exactement dans les différentes initiatives qui sont prises par le pouvoir public. On revient à vous directement, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, parce qu'il y a cette question direct à cette inquiétude de notre ami Bathier qui estime qu'il y a eu déjà des choses initiées dans le passé. À cause de ça, il doute que cette fois-ci, au niveau du gouvernement, qu'on ait quand même des résultats et que les gens se sentent vraiment concernés par cela.
Oui, je voudrais saluer M. Mathieu qui parle de Walikale, mais je pense que les auditeurs savent que le Nord Kivu, c'est un cas particulier. Il y a tout ce que vous connaissez, la guerre, les groupes armés, il est lui-même témoin. Entre Goma et Walikale, il y a Spilil, des groupes armés, tantôt Tcheka, tantôt NDC, Nduma, etc. Mais dans ces conditions, nous avons réussi quand même à attirer une entreprise qui aujourd'hui est en train de faire quelque chose. Mais comprenez qu'une seule entreprise pour une population de 8 millions d'habitants, tout le monde veut être employé dans cette entreprise. Les ratios que vous pouvez calculer, c'est entre une entreprise sur 8 millions d'habitants, vous voyez la demande qu'il y a de la population à chacun vouloir devenir employé ou agent de cette entreprise. Donc je crois qu'il faut plutôt encourager une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième entreprise à venir, et ensemble, lorsqu'ils vont commencer à avoir des résultats et des bénéfices, ils vont aider à pouvoir résorber des questions de chômage au Nord Kivu et même des questions de développement. Je reviens maintenant sur Monsieur Étienne qui nous parle de transparence, des mesures d'accompagnement. Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons présenté au niveau du Conseil des ministres en octobre dernier le décret sur les avantages et les facilités à accorder dans ces zones, après bien entendu la loi qui avait été votée, la mise en place de l'agence des zones économiques spéciales. Ces entreprises-là seront très très bien accompagnées parce qu'il y a effectivement des facilités, des exonérations en matière fiscale, en matière non fiscale, en matière douanière. Je vous donne un exemple. Il y aura des exonérations totales sur les impôts sur les bénéfices, impôts sur les véhicules, impôts sur les revenus mobiliers, impôts sur les revenus professionnels, impôts exceptionnels sur la rémunération, la taxe sur la valeur ajoutée. Tout cela est exonéré par le gouvernement pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. Pourquoi renouvelable? Parce que après 5 ans, il sera fait une évaluation pour voir si réellement l'entreprise est en train d'aider la République démocratique du Congo à faire face aux défis. Et ce n'est qu'après l'évaluation qu'on reconduira effectivement à cette exonération par un arrêté interministériel signé conjointement entre les ministres des Finances et les ministres de l'Industrie. Les gens se posent des questions pour savoir, mais si on va exonérer pour ces entreprises, à supposer qu'il y ait 10 000 entreprises qui s'installent en RDC, on les exonère, c'est une perte énorme d'impôts, de taxes, etc. Mais la réponse est claire. Lorsque ces gens vont s'installer ici, à supposer qu'il y ait 10 000 entreprises et que chacune d'elles emploie au minimum 100 personnes, ça fait 1 million d'emplois. Ces travailleurs-là, eux, ne sont pas exonérés. Ils vont commencer à payer les taxes. Ces travailleurs-là, lorsqu'ils auront les salaires, ils vont payer l'impôt sur les revenus. Ces travailleurs-là, ils vont acheter, lorsqu'ils sont dans les quartiers, des pains à gauche, à droite, de ceci. Et là où ils font des achats, on doit déduire la TVA sur ce qu'eux achètent. Donc, il y a des effets multiplicateurs sur l'installation de ces entreprises en République démocratique du Congo. On peut perdre d'un côté les taxes des douanes d'importation et d'exportation, mais de l'autre côté, on récupère par les faits induits de la masse salariale et de ce que ça comme fait générateur par rapport à cette ribambelle des personnes qui seront engagées ça et là.
On va écouter Moïse qui est à Goma et Bondish à Lubumbashi. Moïse, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour m'avoir passé la parole. Je parle aussi, monsieur le ministre Kaunga et tant d'autres ministres du gouvernement, passant par les membres du cabinet et les directeurs du cabinet des chefs de l'État. Moi, je voudrais dire ceci. Je suis pessimiste de tout ce que le ministre a dit. Pourquoi? Parce que ce que nous avons constaté en tant que population, nous avons constaté que dans ce gouvernement, il y a certains ministres qui travaillent et non pour que les choses aillent de l'avant, mais plutôt pour bloquer les choses. Entre autres, le ministre des Finances, on a suivi qu'il a écrit les lettres interdisant aux banques de donner l'argent aux entreprises, aux petites entreprises, pour faire circuler l'argent. Et aujourd'hui, la population est en train de subir une conjoncture totale, messieurs les journalistes. Alors, pour finir, peut-être j'interviens le dernier. Je voudrais poser la question au ministre. Est-ce qu'il y a la différence entre le projet que lui est en train de nous parler et le projet que le ministre et son collègue de la jeunesse, l'initiation de la citoyenneté, Billy Kambale, a lancé dans le cadre de l'agriculture. Alors, j'aimerais savoir s'il y a au moins une différence ou bien ils vont travailler ensemble. Merci
beaucoup Moïse. Mais vous avez évoqué les cas de ce qui a été débattu dans les médias. On ne va pas entrer dans cette question du ministre qui aurait bloqué celui-là, l'argent, tout ça, c'est pas les débats d'aujourd'hui. Mais partant de cela, vous avez peur que le ministre de l'Industrie n'ait pas la possibilité, les moyens de pouvoir conduire sa politique jusqu'à la fin s'il n'est pas soutenu par d'autres ministères. Et vous avez aussi posé la question de savoir s'il y a la différence entre l'initiative du ministre de la Jeunesse et par rapport aux zones économiques spécial. Bondish, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la magie.
On vous écoute, oui.
Ce que je voulais dire, c'est ceci. À travers le monde, tous les pays qui se sont développés sont passés par la phase d'installation des hauts fourneaux dans leur pays respectif. Alors, j'aimerais savoir, et je pose cette question à monsieur le ministre, à quand l'installation des hauts fourneaux en RDC?
Merci beaucoup. Le ministre va nous dire si aujourd'hui on va relancer des grandes entreprises de transformation. Vous l'avez dit au fourneau, pourquoi il y a aussi le projet des sidérurgies de Maluku. On revient à vous, Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Vous avez suivi ses compatriotes, votre réaction. Monsieur Julien Paluku, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne.
Alors, vous avez suivi ses compatriotes, qui viennent à peine de s'exprimer, votre réaction, oui.
Oui, je vais répondre à la préoccupation ou à l'inquiétude de M. Moïse qui dit qu'il est pessimiste. Moi, je voudrais plutôt appeler Moïse à être optimiste. Chaque jour, nous ne devons pas, nous les Congolais, être pessimistes. Si nous continuons, si nous demeurons pessimistes tout le temps, nous allons marquer les pas et donc nous allons rester dans le sous-développement chronique. Il faut que les Congolais arrivent finalement à se décider, à dire est-ce que nous aussi nous pouvons faire comme les autres. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui. Nous sommes en train de poursuivre l'élan qui a été commencé par d'autres. Nous sollicitons que nous ayons l'accompagnement de tout le monde. Je voudrais aussi préciser que nous n'avons aucun blocage et nous ne l'aurons même pas. Parce que lorsque nous nous déplaçons, nos ordres de mission sont signés par le premier ministre, chef du gouvernement, qui accepte que nous puissions aller échanger des expériences avec d'autres et se discuter au gouvernement. Le président de la République lui-même soutient la démarche que chaque ministre fait dans le cadre de son ministère. Donc il y a une synergie au niveau du gouvernement parce que chacun voudrait, à la fin de ce mandat, produire un bilan et dire « j'ai été désigné à ce ministère, voici comment je l'ai trouvé et voici comment je le laisse ». Donc il y a un sentiment qui nous anime, nous tous, demain, d'être des redevables devant la population par rapport aux assignations qui nous ont été données par les chefs du gouvernement sous la vision du président de la République. De deux, il n'y a pas une différence entre ce que le ministre de la Jeunesse est en train de faire nous-mêmes, en vertu de la synergie gouvernementale et de la complémentarité que nous avons. Je sais qu'il est en train de lancer des brigades de la jeunesse, des brigades agricoles, pour devoir impliquer la jeunesse à quitter la rue. Parce que nous voulons notre gouvernement, nous voulons davantage que des jeunes quittent les mouvements citoyens, quittent la rue, les dimanches, les lundis, les mardis, des pancartes. Oh, nous sommes ceci, on est sur la rue tout le temps. Nous voudrions que tous ces jeunes gens soient mobilisés pour la construction de ces pays. Toutes ces intelligences qui ont été utilisées pour faire des mouvements citoyens, pour faire ceci, nous voulons les captiver, nous voulons les capter pour les orienter vers la production et que demain les pays puissent reconnaître que là il y a une jeunesse qui n'est pas destructrice, mais plutôt une jeunesse qui est capable de devoir apporter le meilleur d'elle-même à aider les pays à aller de l'avant.
Alors monsieur Julien Paloukou, on va d'abord écouter rapidement le dernier auditeur, je crois, et on revient à vous pour la conclusion, comme on est en train déjà de chuter. À Moulé, vous êtes à Arou. Bonjour à Moulé.
Oui, bonjour, je salue les journalistes et l'invité.
On vous écoute rapidement, oui.
Je pense que l'initiative du ministre est tellement bonne. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que chaque ministre vient avec ses innovations, des fois pour plaire soit à son chef, mais malheureusement, nous, la population, on est en train de souffrir, des fois on ne voit pas les résultats même de toutes les initiatives que les ministres prennent. Je pense que le défi est un, d'abord, les ministres, des fois, ou bien les gens qui sont autour de lui, pendant, on avait parlé du passage du marché, des fois, les ministres qui, ou bien les membres de son cabinet qui font la corruption pendant la passation, des fois, au lieu que les projets répondent aux besoins de la population, et quand il y a une corruption, automatiquement, des fois, les projets sont désorientés dans la zone qui n'est pas concernée. Et cela impacte négativement. Il y a déjà la population qui a fait ce projet. Dans l'exemple du territoire d'Arou, et dans sa partie nord, il y a les gens qui ont produit des milliers de tonnes de cigarettes. Mais malheureusement, jusque-là, il n'y a aucun acteur qui est accompagné par le gouvernement. Pour y avoir les sociétés qui sont sur place puissent être appuyées. L'État aussi, au contraire, met sa main sur ces sociétés et c'est ce qui impacte négativement l'économie.
Voilà. Alors, si on peut bien comprendre, Amoulé, votre souci, c'est de voir les initiatives prises par le gouvernement d'une manière globale ou soit par chaque ministre ou en particulier les cas que nous parlons puissent avoir de l'impact sur la population. Merci beaucoup. Samy, vous êtes à Durba, peut-être en 30 secondes hein, pour permettre à notre invité de conclure cet échange.
Le gouverneur, comme il vient de l'ex-gouverneur qui est maintenant le ministre qui vient de parler. Sur le côté de Kiesa Durba, c'est bien d'avoir des investisseurs à venir. C'est bien. Mais quand on voit sur les infrastructures, nous avons un sérieux problème. Comme ici à la province de Routouélé, pour que la population ramène les histoires au niveau du Siro pour arriver à Kiesa Durba dans nos propres mains deux ou trois jours, la route n'est pas praticable. C'est bien d'avoir des investisseurs. Quand ils viennent, le problème c'est d'avoir aussi un suivi. Un suivi, ce n'est pas, ils peuvent nous faire voilà. Comme le Sabou Kamalongo. Nous demanderons au monsieur le ministre de nous, une assurance qui est plus mieux, mais c'est par rapport que
Voilà. Ça veut dire que compte tenu de déceptions que les gens ont eu dans le passé, vous voulez que le ministre vous donne des assurances aujourd'hui que les zones économiques spéciales vont être opérationnelles, elles vont avoir des résultats et la population va bénéficier de cela. Merci beaucoup, Samy. On revient à vous, Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Alors, vous avez suivi les uns et les autres. Hein? Si on parle de pessimisme, les gens doutent, c'est à cause peut-être de ce que les gens ont déjà vécu. On sait tout ce qui s'est passé dans notre pays en termes des grandes initiatives. Et comme le disait Samy tout à l'heure, c'est d'avoir l'assurance que les zones économiques spéciales vont accomplir la mission et surtout que la population va être bénéficiaire de cette initiative.
Oui, je voudrais rassurer tous les auditeurs de la radio Capi que le gouvernement est engagé résolument à contrer les attentes de la population. Dans ma langue, il y a un adage qui dit que quand on a été mordu par un serpent, on a même peur d'un ver de terre. C'est tout à fait normal que, avec tout ce que nous avons connu comme gouvernance, comme pillage, comme guerre, comme corruption, les gens se posent des questions. Est-ce que ces idées qui sont développées aujourd'hui peuvent aboutir? Donc, ce doute est permis à chacun de nous. Mais je crois que la bonne volonté qui nous anime, le gouvernement, le président de la République, le premier ministre, la population elle-même, parce que quand on doute, c'est que ce n'est pas que on ne veut pas que la chose se réalise, mais on voudrait effectivement l'accompagner pour qu'on arrive à ces résultats. Donc je voudrais encourager plutôt la population à accompagner l'action gouvernementale, à éviter de nous verser dans des querelles inutiles entre nous, parce que les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, n'ont pas besoin de bruit de bottes, n'ont pas besoin de tensions politiques, n'ont pas besoin de ceci, parce que l'argent a peur et de bruit de bottes et de tensions. Il faudrait donc que nous puissions apaiser le climat politique de ces pays pour permettre que la démarche que nous avons commencée ensemble, pour laquelle la population voudrait voir des résultats demain, aboutisse. Et je crois que le ministère de l'Industrie, comme ministère transversal, va être mobilisateur pour que les quatre coins de la République puissent vibrer au rythme de la mise en place des zones économiques spéciales. Mais je dois préciser que le développement, c'est un processus par lequel une société s'échange, une société décide de son changement, une société réalise elle-même son changement. Il ne faudrait donc pas que l'on pense que ce ne sont que les investisseurs qui vont nous amener les changements sans le vouloir. Nous devons donc aussi, avec un esprit volontariste, accompagner cette politique au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau du gouvernement, et je crois, d'ici quelques années, on peut dire, ils avaient osé, ils avaient commencé, et ils ont réalisé, et on a chassé la pauvreté, on a chassé le chômage.
Mmh. Est-ce que la question des investisseurs, c'est seulement de capitaux étrangers, ou bien des nationaux peuvent aussi, sont intéressés par l'investissement dans les zones économiques spéciales?
Dans les zones économiques spéciales, tous les capitaux sont les bienvenus. Qu'il s'agisse des capitaux des étrangers ou des nationaux, parce qu'il y a aussi des nationaux qui n'ont pas de voix d'expression par où ils doivent s'exprimer pour mettre en valeur leurs capitaux. Donc je fais un appel à tous les opérateurs économiques congolais qui ont leurs capitaux, qui ne savent pas utiliser, qui sont les bienvenus dans les zones économiques spéciales avec des facilités. Merci. Et des avantages qui seront accordés au même titre que les autres.
Merci beaucoup, M. Julien Paluku. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le ministre de l'Industrie. Merci de nous avoir accordé de votre temps et à éclairer les auditeurs des Radio Capi.
Merci.
On poursuit les débats sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Pierrot Elamenji. Je voulais présenter Paroles aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h heure de Kinshasa. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Au revoir.